Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
Mais on va débuter par les jeunes à 7h, donc un dossier qui nous fait parler régulièrement. On a l'impression que c'est désormais la priorité des clubs de Ligue 1, cette gestion des jeunes. On a en tête l'exemple Kouassi, que le PSG n'a pas pu retenir et qui est parti au Bayern. Autre joueur du PSG, Adil Aouchich, devrait s'engager pour Saint-Etienne dans les jours qui viennent. À Lyon, le dossier important, c'est Ryan Cherki, qui devrait prolonger son contrat d'un an sans forcément être augmenté, mais en tout cas, il devrait être lié à l'OL jusqu'en 2023. Alors, que pensez-vous globalement de cette gestion des jeunes? Est-ce que nos clubs se trompent en misant autant sur ces potentiels, en ne voulant surtout pas rater d'éventuels futurs gros transferts, quitte à donner des salaires très importants à des joueurs qui n'ont pas fait grand-chose en Ligue 1? 32-16 pour en parler. Duga, les jeunes, ça symbolise un peu la dérive du foot business dont tu parles régulièrement?
Oui, bah oui. Bien sûr, parce que ces jeunes joueurs à potentiel sont trop souvent surpayés parce que t'as peur de les perdre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la législation et ce fameux contrat de 3 ans, premier contrat pro, qui est très très difficile à gérer pour les clubs professionnels, qui est un véritable handicap pour les clubs formateurs. Ça c'est certain. Si ça pouvait être modifié, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Mais c'est sûr que qu'est-ce que doit chercher en priorité un jeune joueur? Peu importe son potentiel, c'est jouer, parce qu'autrement il peut rester toute sa carrière un potentiel. Donc c'est lui donner du temps de jeu. Et certains clubs qui n'ont peut-être pas forcément la capacité de faire jouer ces garçons-là préfèrent les payer un peu plus cher pour pas se les faire piquer. Et à l'arrivée, tu te retrouves avec un joueur que tu peux pas faire progresser parce que tu ne feras pas jouer parce que c'est pas la politique du club, parce que le club a pas forcément un projet bien défini, bien clair, un entraîneur capable de faire progresser aussi ces jeunes là parce que c'est bien beau de vouloir garder des jeunes, mais faut-il encore pouvoir avoir un entraîneur qui a cette fibre de la formation, cette fibre de cette patience de vouloir faire progresser les jeunes, de leur parler aussi ces nouvelles générations avec des nouveaux codes. Donc c'est parfois compliqué à gérer. Mais quand tu as autant de clubs qui sont en difficulté financière, je parle pour la Ligue 1, c'est un peu à qui tout double, si tu veux. Ils se disent, il faut pas rater le gros coup, parce que si on perd le jeune talent ou la jeune pépite ou notre jeune espoir qui pourrait nous rapporter beaucoup, 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 beaucoup d'argent et peut-être sauver les comptes du club et peut-être la survie du club, c'est donner beaucoup trop d'importance à ces joueurs-là parce que t'es dans une espèce tu sais, c'est un peu comme à la bourse. Quand tu veux faire 15% de rentabilité, eh bien forcément, il faut prendre beaucoup de risques.
Oui, tu spécules en fait.
Manu Petit me demande si tu es vraiment bien placé pour parler de ça.
J'ai une question par rapport à ça.
Juste avant, Francky, tu vas poser ta question, ouais. Duga va pouvoir finir, etc. Mais on va accueillir notre invité qui vous écoute et qui pourra réagir et qu'on pourra interroger. C'est Laurent Momedja qui est en direct avec nous. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent. Bienvenue.
Bonjour à tous et merci de m'accueillir.
Tu gères avec le compte plaisir. Twitter Espoir du football, un compte qui recense pas mal de pépites, mais aussi qui est passionné par cette question de la gestion des jeunes. Donc écoute bien ce qu'il dit, on fera réagir bien sûr au débat juste après. Donc Franck.
Ma question, elle est pour vous et elle est pour Christophe, parce qu'il me semble que quand nous étions au centre de formation et qu'on signait notre premier contrat, on était obligatoirement tenu de signer avec le club qui nous avait formé, donc le club professionnel qui nous avait formé. Là, on a l'impression, avec l'histoire de des deux Kouassi. Joueurs Kouassi et Aouchich qui partent chacun dans des clubs différents alors qu'ils ont juste fini leur formation.
Ouais, mais alors,
qui a changé ça?
Je suis d'accord avec toi, mais par contre pour les deux joueurs, pour moi c'est complètement différent. C'est que d'un côté t'as Aouchich qui pour moi part pour les raisons que justement Duga
vient
de mentionner, c'est-à-dire que recherche de temps de jeu, un entraîneur qui veut construire son projet de jeu autour de lui, donc son choix finalement lui il est légitime. Par contre effectivement on peut pas comprendre le choix de Kouassi, qui voilà, on a l'impression plutôt qu'il est parti pour être dans un club où la concurrence elle est tellement forte qu'il va pas va pas jouer. Là tu te poses des questions parce que le club lui donnait des garanties de temps de jeu et ça doit être la priorité aujourd'hui pour les jeunes joueurs.
Ma question c'est pourquoi on a changé cette loi alors que si on n'est pas là pour faire du cas par cas, mais je pense qu'il est plus intéressant quand on a formé un joueur de le voir s'épanouir dans
le truc.
Non mais si
c'est
si pas parce,
sujet,
parce que clubs, maintenant
est-ce que les clubs en font trop
barrer.
Ou n'en font pas assez avec ces jeunes-là. Au bout d'un moment, il y a un constat, Francky, qui existe, tu l'as dit. Aujourd'hui, c'est la législation, elle est comme ça. Les choses ont évolué, c'est un constat. Mais est-ce qu'elles peuvent se modifier ou pas? On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est pas le débat.
Pourquoi c'est modifié?
Mais comment faire pour que les choses se passent différemment?
Différemment avant parce que les joueurs étaient tenus de rester dans leur club.
On s'en fiche, on parle de maintenant. Aujourd'hui, comment tu fais pour qu'avec ces joueurs, ça ne se passe pas? Il faut arriver à ce que ces joueurs-là ne prennent pas le pouvoir. Et le problème, c'est que ces jeunes joueurs, de par leur salaire, de par leurs ambitions parfois démesurées, ont pris le pouvoir. Et c'est eux qui gèrent les clubs. Et c'est eux qui ont le pouvoir de parfois mettre les clubs en difficulté. Non, mais si les clubs sont bien gérés.
Les clubs leur donnent cette importance aussi.
Mais pourquoi? Parce qu'ils sont en difficulté. Parce qu'ils sont en difficulté financière. Parce qu'ils ont pris beaucoup trop de risques en amont. Et ils se laissent pas une marge de sécurité. C'est tout. C'est de la spéculation, tout simplement.
Parce que regarde le PSG, ils sont pas en difficulté financière. Mais le problème, c'est que les mecs, ils ont rien prouvé, c'est des gamins, ils veulent être titulaires. Mais franchement, mais qui va leur assurer dans un grand club d'être titulaire, à part RMC avec Momo et Jean-Louis? Mais personne est assez ouf pour donner titulaire deux gamins. Tu vois, Germain, on va
leur dire.
On parle des jeunes qui sont surpayés, mais il y a tellement aussi de joueurs confirmés qui sont surpayés en Ligue 1 aussi. Donc bon,
au bout d'un moment. Encore une fois, par rapport à la loi d'avant, et il faudrait revenir à cette loi, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'on ne définissait pas les salaires et on ne se barrait pas parce qu'on n'avait pas assez de temps de jeu. On attendait ça à la fin de son premier contrat, mais au moins on re-signait et on ne faisait pas la loi dans un monde qui ne t'appartient pas encore. C'est ça que je dis.
Alors, Laurent, du Compte Espoir du football, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit?
Du coup, pour répondre à la question de Franck justement sur ce changement de règle, en fait, on est dans les suites de toutes les règles Bosman sur la libre circulation des joueurs, etc. Donc toutes les réglementations se sont adaptées en conséquence. Okay. Et donc aujourd'hui, un joueur n'a pas l'obligation de signer dans son club formateur, que ce soit en France ou enfin il peut signer soit dans un club étranger, soit signer dans un autre club français. Et par rapport à ce que disait Laure, je pense que justement, il faut pas être sur un raisonnement où on compare et on met tout le monde dans le même sac, type Aouchiche et Kouassi. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, je pense, avec Aouchiche qui va faire le choix de refuser un premier contrat pro pour partir dans un club où justement il aura éventuellement l'opportunité de s'épanouir avec du temps de jeu, etc. Et Kouassi qui avait la confiance de son club. Là, pour le coup, justement, quand on parlait de faire la loi dans son club, etc., en l'espace de trois mois, Kouassi a réussi à plus ou moins s'imposer dans l'effectif du PSG, donc pas comme un titulaire indiscutable, mais il avait joué 13 matchs, il avait marqué 3 buts et il avait joué dans les quatre compétitions dans lesquelles était engagé le PSG. Donc on peut pas forcément comparer ces cas, mais par rapport à ce que disait Franck, on est vraiment dans une logique aujourd'hui de libre circulation avec une concurrence qui est accrue et notamment le phénomène d'aspiration des clubs étrangers vis-à-vis des clubs français. Et ça, c'est une réalité.
Et qu'est-ce que tu penses de la dérive de tout ça, la dérive de la spéculation qui fait que parfois certains jeunes joueurs qui ont pas prouvé énormément font partie des plus hauts salaires des effectifs parce que il a fallu payer un potentiel et faire garder ce joueur.
En fait, pour refaire un peu l'historique sur ce qui se faisait à l'époque, quand un jeune joueur quittait la France, il y a encore, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'années, type Sinama Pongol, Le Talec, etc., c'était des jeunes espoirs qui ne partaient pas dans l'optique d'avoir un énorme temps de jeu dans leur nouveau club. Là, on est dans une course à la spéculation, et je pense que si on devait mettre une date de début sur ces nouvelles pratiques, c'est quasiment il y a 4-5 ans, à l'époque quand Kylian Mbappé n'avait pas encore signé son premier contrat pro, il était déjà convoité, déjà à l'époque notamment par le PSG et Olivier Létan qui essayait de l'attirer au PSG. Et on s'est aperçu qu'en l'espace d'une grosse année, sa valeur est passée à 180 millions d'euros. Donc en fait, on est toujours dans une logique maintenant de pure spéculation.
Pour un Mbappé, les autres, il n'y en a que Mbappé, quoi.
En fait, c'est que tout le monde maintenant pense qu'il a son Mbappé, ah ouais, entre guillemets.
Ouais, c'est ça, il se met dans le rouge.
Excuse-moi, oui, le but recherché, c'est différence. Ça qui est peut-être l'exception et pas forcément le gros.
Jean-Louis, il y a une petite différence, c'est que Mbappé, la plupart, c'est de la spéculation sur un joueur dont on ne sait pas grand-chose. Mbappé, quand il vaut 180 millions d'euros, il vient de qualifier son équipe en demi-finale de Ligue des Champions.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu un cas à part, quoi.
C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de clubs qui se sont dit, on a raté Mbappé au moment où on aurait peut-être pu l'avoir en faisant signer son premier contrat pro, notamment des clubs étrangers qui auraient essayé de l'attirer. Et donc maintenant, on est dans cette course à trouver la future pépite, justement, en offrant des salaires qui peuvent.
Mais justement,
on a entendu Laurent encore.
Ouais, justement, Laurent, comment tu justifies, par exemple, que Lyon vient de prolonger Cherki alors qu'il était déjà lié au club jusqu'en 2022?
Alors attends, juste ça, c'est un petit détail, Laure, qu'Edouard G nous a expliqué, notre correspondant à Lyon. En fait, il s'était mis d'accord au moment de la signature du premier contrat pro d'être lié pendant 4 ans. Or, on l'a expliqué, le premier contrat pro ne peut pas faire plus de 3 ans. Donc, ils se sont dit, après 6 mois, quand on peut prolonger le contrat, on le prolonge. Donc, en fait, Cherki, c'est juste une façon de s'engager sur 4 ans.
Parce qu'au départ, je pensais que c'était parce que justement, il intéressait certains clubs étrangers notamment et que c'était une manière de pouvoir le conserver, mais ça peut aussi arriver pour certains clubs.
Oui. Des fois, c'est une façon de le sécuriser sur 4 ans, en tout cas, ce qu'ils ont fait, le signer en 2 fois, quoi. Voilà.
Disons que c'est une astuce de contrat qui permet, justement, tout à l'heure, quand Christophe disait que les contrats étaient limités à 3 ans, ce que font beaucoup de clubs, c'est qu'ils signent un premier contrat pro de 3 ans et 6 mois après, on a le droit de faire un avenant de prolongation. Donc, du coup, les joueurs peuvent être liés jusqu'à 5 ans à leur club formateur. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Et Cherki, on est dans ce cas-là. On va dire que l'OL a sécurisé Cherki l'été dernier quand il a signé son premier contrat pro. Et là, on est dans une continuité de contractuel vis-à-vis de l'OL. Mais le joueur avait été bloqué dès l'an dernier. Par contre, pour dire par rapport à ce que vous disiez sur des sommes astronomiques, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Jean-Louis, alors je sais que ça va pas plaire à du gars qui est plus sur la passion que sur les chiffres et le cynisme actuel du foot, mais comme je l'expliquais, un joueur comme Aouchiche, hier il y a des chiffres qui sont sortis avec un salaire net qui était annoncé à 80 000 euros, une prime à la signature qui était entre 3 et 4 millions d'euros. Pour aller à Saint-Etienne. Mais en fait, si tu mets tous ces chiffres bout à bout, t'atteins, on va dire, entre guillemets, sur les 3 prochaines années, donc d'un contrat qui serait signé par Aouchiche, entre les indemnités de formation, le salaire sur 3 ans, avec un salaire qui est déjà imposant et une prime à la signature qui est énorme, c'est aux alentours des 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, à l'heure actuelle, c'est le prix qu'ils ont donné pour acheter Diony hors salaire. Donc en fait, on va dire cyniquement ce que se disaient les clubs, et notamment un club comme Saint-Etienne, on va dire qu'il y a un club, moyen en termes de moyens financiers. Ce qu'ils se disent, c'est plutôt qu'aller investir sur un joueur en payant une indemnité de formation qui peut être assez importante, pourquoi ne pas faire le tout pour le tout sur un joueur. Alors Aouchiche, il a essentiellement prouvé en U17, donc tu me diras, on n'est pas encore au niveau professionnel. Sauf qu'un joueur comme ça, dans les 3 ans de son contrat, même si il échoue sa première année, il va garder une valeur, une cote sur le marché des jeunes qui va rester importante. Donc en gros, le calcul de ces clubs, c'est de se dire, j'investis aujourd'hui une somme qui est importante. Ce joueur, au final, ne va pas avoir sa cote qui va dévaluer rapidement, contrairement à des joueurs qui peuvent coûter 10 millions d'euros avec des salaires à 50 ou 70 000 euros. Donc c'est cynique et c'est une logique qui est très économique. Mais au final, on est vraiment dans cette logique-là.
Après, la logique des clubs,
la comparaison, tu l'as fait avec Diony parce que c'était un échec. Mais le problème, c'est d'avoir pris Diony parce qu'il n'avait pas le niveau. Tu peux pas justifier que Aouchiche va coûter 10 millions d'euros pendant 4 ans parce que Diony en a coûté aussi 10 et qu'il est passé à côté de son passage à Saint-Etienne. Mettre 10 millions sur Aouchiche, mais c'est juste fou. C'est totalement irrationnel.
Si d'ailleurs il fallait mettre une énorme prime à la signature pour l'entourage.
En fait, t'es dans une logique d'imaginer qu'un club étranger pourra encore venir casser son contrat pro en payant une indemnité qui sera assez importante. Et un peu comme fait Lille, qui fait signer énormément de contrats pro à des jeunes joueurs qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas issus du centre de formation du LOSC. En gros, et on est sur des chiffres qui sont largement moindres, à part peut-être Iadji qui a qui a une qui aura une prime à la signature et un contrat assez important. En fait, l'objectif, c'est de se dire, on va peut-être en recruter 3 ou 4. Et si un, ouais, on arrive à faire une cul de but comme bah comme Lille sait bien vendre ou d'autres clubs savent bien vendre, on va se retrouver alors, avec moi, avec une oui
vas-y,
une
pépite, ouais, avec une pépite, ouais, et
ouais,
une
grosse somme,
une belle opération, ouais, financière.
Bah, surtout moi, quand moi, tu la vois comment les clubs étrangers.
Oui, vas-y.
Je te laisse parler, pardon.
Non, moi, la question que je voulais te poser, c'est sur la mentalité des jeunes. Parce que, donc, est-ce qu'elle est en train, elle aussi, d'évoluer avec ses pratiques? Parce que, le truc logique, c'est de se dire, bon, s'il y a autant d'argent au-dessus d'un joueur, que ce soit sur la prime à la signature, etc., ce qu'on a dit, en gros, 10 millions autour d'Aouchiche, est-ce que ces joueurs-là sont conscients de ce que représente cet argent? Parce que, à votre époque, Duga ou Francky, une telle somme, ça mettait un poids énorme sur les épaules.
Mais moi, Jean-Louis, je vais essayer de répondre à ma manière. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu fais signer par exemple 7 joueurs professionnels à Bordeaux, des jeunes, ouais, quand t'en fais signer 6 à l'OM, tu les fais signer pourquoi? Pour les faire jouer? Non, ils pourront pas tout jouer. Tu les prends pour faire du trading. Tu les prends pour spéculer. Donc, tu les prends pour de la marchandise. Donc, à partir du moment où tu les prends pour de la marchandise, ils se comportent comme, oui, de la marchandise. Voilà, et ils veulent en demander le plus possible. Mais bien évidemment qu'il est là, le discours. Et au bout d'un moment, quand tu parles à un joueur de la sorte, mais il te répond de la même façon dont tu lui parles. C'est pareil. Tu lui proposes pas un projet sportif. Tu lui proposes de l'argent.
Oui, donc en fait, ça va pas lui faire tourner la tête, mais puisque ça fait partie de la profession.
Il va en demander le plus possible. Il va en demander le plus possible. Et tu rentres dans un espèce de système qui est tout simplement insoluble.
Laurent.
Bah du coup pour compléter ce que disait Dugarry, déjà en termes de chiffres, on va dire des premiers contrats pro qui peuvent être proposés, on va dire assez intéressants, type 15 000 euros par mois avec une prime à la signature de 200 000 euros. C'est des choses qui sont assez régulièrement. Si vous calculez, ça fait à peu près on va dire 750 000 euros. C'est l'équivalent d'un SMIC sur 50 ans. Donc j'allais dire déjà le calcul pour parler vraiment de ces joueurs qui sont souvent issus de classes populaires, etc. Ce calcul financier, je pense que justement ils en ont conscience parce que ils savent que en un contrat pro de 3 ans, ils arriveront peut-être à avoir le salaire d'un de leurs parents sur toute une carrière. Et après, ce qu'il faut aussi dire sur ces sommes, c'est qu'on est sur des sommes qui sont importantes certes, mais comme le disait Dugas sur l'aspect marchandisation des joueurs qui deviennent eux-mêmes des marchandises. Pour prendre l'exemple du PSG, par exemple, parce qu'on parle de Aouchiche et Kouassi qui sont partis, le PSG fait signer, on va dire entre 7 et 9, on va dire entre 6 et 8 contrats pro par an. De joueurs type Capo, Fadiga, donc vous connaissez Olivier et Kalilou quand ils s'appelaient comme ça, qui ont joué pro, eux on ne sait pas s'ils joueront pro. Et là en fait ils se retrouvent dans une situation où le PSG à l'époque d'Antero Henrique a supprimé sa réserve, donc ces joueurs ne peuvent plus jouer en U19, ils ne peuvent plus jouer en réserve parce qu'il n'y en a pas, et il n'y a pas forcément de politique structurée de prêt derrière. Donc ils ont fait signer des joueurs des premiers contrats pro, et c'est des joueurs qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté parce que le mercato arrive, ils savent a priori qu'ils ne rentreront pas dans la rotation, et donc du coup ils sont liés à un contrat par un contrat avec le PSG. Et de la même façon, si vous reprenez les joueurs qui ont quitté Paris l'an dernier, quand il a fallu rentrer dans les clous du fair play financier, etc., les premiers joueurs qui sont partis, c'est Diaby, c'est Zagré, oui, c'est Nkunku, donc c'est des joueurs où au final le PSG leur a dit on va vous vendre pour enflouer les caisses, parce que c'est plus facile d'aller vendre un Zagré de 10 millions d'euros à Monaco en lui mettant un peu la pression, en lui disant tu vas peut-être pas forcément... Oui, il est parti pour 10 millions après 25 minutes de jeu en Ligue 1 avec le PSG.
Ça ne veut plus rien dire, l'argent, ce niveau-là.
Un gars comme Nkunku, c'est un peu gagnant-gagnant, le mec. Il est vendu 15 millions, donc il arrive avec un certain statut. Ils sont obligés un peu de le faire jouer, il peut faire ses preuves. Tu vois, il sera toujours mieux traité là-bas qu'à Paris.
Oui, mais est-ce que la pression dont tu parlais un petit peu des clubs ou du fait de jouer ou de ne pas jouer, est-ce qu'elle est aussi pressante du côté de la famille? Est-ce qu'une pression de la famille aussi pousserait les joueurs à vouloir absolument partir pour faire fructifier leur talent?
Je sais pas si on peut faire cette conclusion pour tous les cas. Je pense qu'il y a des cas différents. Les clubs en général, enfin les familles pardon, en général, elles essayent de pousser rapidement à signer des premiers contrats pro. Mais après, ils ont aussi en tête que signer un premier contrat pro à 16 ans, ça veut dire que globalement, à 19 ans, on est libre. Et on a beaucoup de cas, notamment des cas récents, de joueurs qui ont signé des contrats pro très très tôt et qui, au final, à 19 ans, se retrouvent dans le bec dans l'eau parce qu'ils ont passé, peut-être 3 ans dans leur club formateur. La première année encore à jouer en U17, ils étaient ni en U19 ni en réserve. Deuxième année, ils sont peut-être partis en prêt et encore. Et du coup, ils se retrouvent la dernière année à ne pas savoir ce qu'ils vont faire. Donc, j'allais dire, précipiter des premiers contrats pro. Oui, mais c'est le meilleur moyen pour mettre des joueurs en difficulté.
Mais là où il est là le problème, c'est que les clubs, ils ne raisonnent pas de faire signer ces contrats pro pour les faire jouer. Ils raisonnent de faire signer ces contrats pro pour les bloquer et pour faire une affaire financière derrière. Il n'y a aucun projet sportif. On en revient toujours à la même chose. Normalement, putain, mais Francky, tu parlais de notre époque. Quand on nous faisait signer un contrat pro, c'était pour nous faire jouer.
Eh oui.
C'était pas pour nous faire pour gagner de l'oseille. Tu voulais gagner de l'argent sur un joueur qui était international, sur un joueur qui avait marqué des buts, un ballon d'or, j'en sais rien, mais pas sur un jeune. Là, aujourd'hui, t'as l'impression que c'est eux qui représentent la vraie valeur du club. C'est terrible.
Oui, c'est
terrible.
C'est ça le problème.
On va en rester là. Gars, à ton époque, il n'y avait pas 2000 scouts qui étaient là pour voir si un mec de 17 ans à Bordeaux était Christophe Dugarry. Il le découvrait qu'en Coupe d'Europe, quand t'avais commencé à marquer des buts.
Bien sûr, c'est ça la différence. Alors, on remercie notre invité. Merci Laurent Momedja, donc du compte Laurent du football.
Super, merci beaucoup pour tes explications. C'était super clair. Merci beaucoup.
Merci à toi et à très vite.